Dans la tribune de l'histoire de ce soir, le sultan et le roi soleil par Alain Decaux. Avec Jean Negroni, Robert Parti, Fernand Guillot, Jean Claudio, Michel Derville, réalisation de Georges Gravier.
Bonsoir, Alain Decaux. Ce soir, nous allons quitter la France pour y revenir parce que nous allons d'abord nous rendre au Maroc. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un livre est paru récemment de M. Younes Nekrouf qui s'intitule « Une amitié orageuse, Moulay Ismaïl et Louis XIV », livre publié chez Albin Michel. Nous avons choisi de traiter ce sujet parce que le livre est excellent, plein de révélations, il est allé aux sources et c'est important, mais aussi parce qu'il s'agit du plus singulier, peut-être des face-à-face, entre deux personnages hors mesure. Louis XIV, le roi soleil, et Moulay Ismaïl, descendant du prophète et qui fut l'unificateur et le véritable fondateur du Maroc moderne. C'est dans son palais de Meknès que nous allons rencontrer Moulay Ismaïl et ce souverain, un Français qui fut esclave à Meknès, l'a dépeint. Il est assez haut, mais de taille fort déliée, quoiqu'il paraisse assez gros à cause de ses habits. Son visage, qui est d'un châtain clair, est un peu long, et les traits en sont bien faits. Il porte une longue barbe qui est un peu fourchue. La résidence où nous pénétrons est magnifique, car dans chacun des palais du roi du Maroc, les parquets, les murs, les plafonds sont décorés de mosaïques et de marbre et les toits en pyramide sont recouverts d'étincelantes tuiles vertes. Partout, de l'eau, des bassins, des fontaines, des jets d'eau, et tout près de là s'élèvent les fameuses écuries, tout en piliers et portiques, qui peuvent recevoir 12 000 chevaux. Écoutez le sultan Moulay Ismaïl.
Je suis sûr que le roi de France est un homme à qui l'on peut se fier.
Je voudrais le croire, Seigneur.
Quoi, tu n'en es pas sûr?
Je remarque, Seigneur, que les Français n'ont cessé de pourchasser nos bateaux, de bombarder nos ports et de les affamer par le blocus.
Est-ce que nous nous gênons, nous, lorsque nos vaisseaux rencontrent les leurs pour les attaquer, les couler et nous emparer des équipages pour en faire des esclaves?
Nous n'aurons jamais autant d'esclaves francs au Maroc qu'ils n'ont d'esclaves de notre race en France.
Ce n'est pas là le problème. Ce que je ne comprends pas, c'est que le roi de France nous ait demandé la paix et que cependant qu'il envoyait un négociateur, il continuait à donner la chasse à nos corsaires avec une escadre de 2 vaisseaux, 3 frégates et un brûlot. Il y a là quelque chose qui m'échappe. Je ne comprends pas non plus pourquoi, ayant signé un traité avec moi, il refuse de le ratifier.
En fait, Seigneur, le roi de France n'a pas demandé la paix. Il faut relire sa lettre. Il veut bien t'accorder la paix que tu as demandée.
Je n'ai rien demandé du tout.
La vérité est que le roi de France a besoin de cette paix. Il voudrait que nous lui rendions les francs qui sont esclaves chez nous et il voudrait que ses vaisseaux puissent parcourir les mers en toute sécurité. Ce qui a raison du courage et de l'habileté de nos marins n'est pas du tout le cas.
Alors il me demande la paix.
Non, son orgueil le lui défend. Puis-je te relire la lettre du roi Louis XIV?
Je te le demande.
Très haut, très excellent et très puissant prince, notre très cher et bon ami, ayant été informé de la disposition où vous êtes, de traiter la paix avec nous...
Je ne suis dans aucune disposition.
Je continue, si tu le veux bien. Nous avons chargé le sieur de la Barre, capitaine de l'un des vaisseaux de guerre de l'escadre française que nous avons fait armer cette année pour aller devant Salé, de vous aller trouver pour en conclure le traité suivant les conditions contenues aux articles dont il est porteur. C'est pourquoi nous vous faisons cette lettre pour vous dire que nous souhaitons que vous donniez une entière créance à tout ce qu'il vous proposera de notre part sur ce point.
Je n'ai pas assez relu cette lettre quand elle m'a été envoyée. Sans cela, je n'aurais pas autorisé que l'on signe ce traité.
Mais tes représentants l'ont signé. Ces articles seront valables une année pour être prolongés pendant plusieurs autres lorsque l'ambassadeur que tu enverras au dit roi de France les lui aura présentés.
Ce sera toi, mon ambassadeur.
Oh, sois persuadé, Seigneur, que je mesure tout le prix que je dois attacher à la confiance dont tu me combles.
Il faudra que tu éclaircisses tout cela. Les Francs signent ce traité, et comme s'il n'existait pas, leur corsaire Jean Bart force l'un de nos vaisseaux à s'échouer sur la côte du Portugal et capture 103 Marocains, parmi lesquels plusieurs de mes amis qui se rendaient à la Mecque. Et dans le même temps, un autre bâtiment franc capture l'un de nos navires avec un équipage de 125 Marocains. Les deux équipages ont été aussitôt envoyés aux galères à Marseille. Et tu sais ce que c'est que ramer sur les galères du roi des Francs?
C'est abominable. 24 heures sur 24, ils sont enchaînés à leur banc. Ils sont mal nourris, vêtus de haillons. Et ils doivent, sous les coups de fouet, soulever des rames si lourdes que peu de gens survivent au bout de 3 ans.
Crois-tu que je n'y pense point? À nos frères qui rament sur les galères du roi des Francs. Au moins, les esclaves chrétiens qui sont ici se trouvent tous dans la cité royale. Ils travaillent, certes. Ils ont aidé à construire mes palais, mais ils ont sujet de se louer de la vie que je leur fais. Je laisse même pratiquer leur religion et j'accepte ici des moines franciscains. Tandis que sur les galères du roi des Francs, un musulman n'a même pas le droit de prier. Sinon, il est battu 2 fois plus que les autres.
Pardonne mon audace, Seigneur. Mais connaissant tout cela, d'où vient que tu te fies tant à la parole du roi des Francs?
Parce qu'un si grand prince ne peut pas être un menteur. Il peut être dur, cruel. Moi-même, pour délivrer mon royaume des brigands, n'ai-je point dû les exterminer? Et je n'ai accordé aucun merci à ceux qui se sont rebellés contre moi. Non, vois-tu, Mohamed, j'admire le roi des Francs depuis que je le connais mieux par les récits de mon neveu Moulay El Harbi. Il a voyagé 5 années en Europe, il a vu Louis XIV, il m'a raconté ses victoires sur les Espagnols, sur les Hollandais, sur l'empereur d'Autriche. Par lui, j'ai connu les batailles que ses armées avaient gagnées sur ses ennemis, les sièges auxquels ce grand roi a participé de sa personne. Je connais les qualités de son gouvernement, la sagesse de ses lois, la police de ses états, sa piété, son zèle religieux.
Le zèle d'un infidèle.
Et il vit dans l'erreur, mais il prie le même Dieu que moi. Ce qui me plaît aussi, Mohamed, c'est qu'il fait la guerre aux Espagnols, mes propres ennemis, et qu'il est l'allié du sultan de Turquie, un prince de notre religion.
Tu admires ce roi et en même temps tu ne me comprends pas.
Mais non, je ne comprends pas qu'il ait souhaité engager des négociations et après qu'elles eussent abouti, qu'il ait refusé de ratifier le traité. C'est bien pourquoi tu vas partir, Mohamed Temim. Tu vas voir le roi des Francs. Et tu lui feras part de mon étonnement et en même temps tu lui proposeras mon amitié. J'ai écrit au roi Louis XIV dans ce sens. Une idée m'est venue qui assurément permettra entre nos deux royaumes une paix éternelle.
Une idée, Seigneur?
Oui. Je me suis souvenu de la lettre qu'écrivit le prophète Mahomet à l'empereur de Byzance, Héraclius, par laquelle il l'incitait à embrasser notre religion. Je vais faire la même proposition au roi Louis XIV.
Tu vas lui proposer de se convertir à l'islam?
Assurément. Peut-être, quand tu arriveras à Paris, le roi de France m'aura-t-il compris? Peut-être sera-t-il musulman? Tu as l'air sceptique.
Oh, je le suis, Seigneur.
C'était mon devoir de le lui demander. Tu pars sur le vaisseau du capitaine de la barque?
Oui, Seigneur.
Puisqu'il a négocié le traité, il connaît ma position. Il pourra t'assister dans tes négociations. Bon voyage, Mohamed. Et que Dieu te vienne en aide.
Mon nom est Lefèvre de la Barre. Je suis capitaine sur les vaisseaux du roi de France. Selon les ordres que j'avais reçus, j'ai pris à mon bord l'ambassadeur du très puissant et très excellent roi du Maroc, son excellence El Hadj Mohamed Temim, et celui qui était son adjoint, El Hadj Ali Manino. Pour ceux qui me liront, je dois préciser que sont appelés en pays musulman Al-Hajj ceux qui ont accompli le pèlerinage de la Mecque. Mohamed Temim, gouverneur de Tétouan, est un haut personnage qui peut se réclamer de la faveur du sultan Moulay Ismail. Ali Manino, son adjoint, est parent du roi et il a été gouverneur de Salé. Il porte d'autant plus d'intérêt à ce voyage qu'il est le père d'un jeune homme qui fut pris par le capitaine Jean Bart sur les côtes du Portugal et qui a déjà été envoyé ramer aux galères de Marseille. Deux secrétaires conseillers et quatre serviteurs complètent la mission du sultan. Nous avons quitté l'avant-port de Tétouan le 21 septembre 1681 et nous avons cinglé vers Brest. Après avoir fait relâche pendant 3 jours à Lisbonne, nous n'y sommes arrivés en raison du mauvais temps que le 16 octobre 1681. Homme d'un certain âge, l'ambassadeur Temim fut fort incommodé pendant la traversée, mais en homme d'honneur, il ne se plaignit pas. À Brest, dès qu'il fut reçu par le sieur Michel Bégon, intendant intérimaire de la marine, il lui fit savoir qu'il n'avait point de présent pour le roi de la part de son maître, parce que celui-ci n'avait pu en trouver d'assez considérable. Mais il lui présenta quelques animaux qu'il avait l'intention d'offrir à sa majesté en son nom propre, 4 autruches, 1 lion, 1 lionne et 1 tigresse. Cependant que j'écrivais à M. Colbert, M. Bégon faisait savoir que l'ambassadeur de l'empereur du Maroc attendait les ordres pour se rendre à la cour et qu'il demandait que le sieur de Raymond X, major de la marine du Levant, l'accompagnât jusqu'à la cour, car tous deux ont lié amitié et conversent en espagnol et en italien. Le 2 novembre, M. Colbert a fait connaître à M. Bégon ses instructions. L'ambassadeur devait d'abord montrer ses pouvoirs à lui, Bégon, ou au sieur de Raymond X, avant d'être acheminé vers Paris. Mais le dit ambassadeur manifesta sur ce point son désaccord.
Moi, Mohamed Temim, ambassadeur de mon maître, le très puissant Moulay Ismail, j'ai résolu de noter dans ce carnet tout ce que je verrai et entendrai dans le royaume des Francs. Je ne suis parti de Brest que le 4 décembre, comme disent les chrétiens. Ceci après avoir attendu 56 jours dans un froid et une humidité dont je ne pensais pas qu'il pût en exister de tel sur la terre que tu as faite. Mon voyage m'a conduit vers Paris en traversant Nantes, Angers, Blois, en un équipage que j'ai trouvé fort inconfortable. Il a duré plus de 3 semaines. Je dois convenir que l'on m'a fort bien reçu tout au long de ce cheminement.
L'ambassadeur arriva aux portes de la capitale le 27 décembre 1681, mais il dut attendre 3 jours dans une chambre d'auberge. J'ai su par les affaires étrangères que Sa Majesté ne voulut point qu'on lui fît d'entrée officielle. Ainsi, il entra dans Paris le 30 décembre 1681 avec les mêmes voitures de louage qui lui avaient servi dans le voyage. Il descendit à l'hôtel des ambassadeurs, où il fut logé pendant tout son séjour. Le lendemain, le sieur de Bonneuil, un traducteur des ambassadeurs, vint lui faire une visite de courtoisie de la part du roi. Le 4 janvier 1682, le même monsieur de Bonneuil vint prendre l'ambassadeur dans les carrosses du roi et de la reine pour le conduire à Saint-Germain-en-Laye, à l'audience de Sa Majesté. Le roi Louis XIV reçut l'ambassadeur dans la chambre du trône. Il se découvrit, sans se lever. El-Hadj Mohamed Temim fit plusieurs révérences, présenta au roi les lettres de son maître Moulay Ismail et prononça en arabe une harangue que Pierre Dipi, français d'origine d'Alep, secrétaire interprète du roi, traduisit.
Empereur de France, Louis XIV, le plus grand de tous les empereurs et rois chrétiens qui ont été et qui seront. L'empereur mon maître, ayant entendu parler des grandes choses que votre majesté a faites dans l'Europe, comme d'avoir à la tête de ses armées conquis des royaumes, gagné un grand nombre de batailles, et, comme un lion, vaincu tous ses ennemis, portant partout la terreur et l'effroi au travers de toutes sortes de dangers, toutes ces grandes actions ont tant donné d'admiration et d'estime à l'empereur mon maître pour votre majesté, qu'il a cru qu'aux conquêtes de Sousse, de Fès, de Tafilet, de Maroc, de Rif, des Arbouzem, de Tétouan, de Salé et d'Elbzar, et à la gloire d'un grand nombre de batailles qui l'ont rendu le plus grand et le plus vaillant de l'Afrique, il fallait ajouter pour achever de le rendre content et glorieux, la paix avec votre majesté.
Sa majesté, le roi Louis XIV, parut content d'entendre pareil propos et prit la parole en ces termes.
Monsieur l'ambassadeur, tout ce que vous venez de dire ne peut que m'aller droit au cœur. J'espère que vous avez fait bon voyage et que votre séjour à notre royaume se déroulera le mieux du monde. Quant à moi, j'ai l'intention de chercher toutes les occasions de vous faire plaisir. Je nomme M. Colbert de Croissy, ministre des Affaires étrangères, et M. le marquis de Seignelay, secrétaire d'État à la Marine, pour écouter vos propositions. Mes officiers vous retiendront à dîner avec votre suite. Et je souhaite que vous fassiez bonne chère.
Le lendemain, 5 janvier, ont commencé les négociations annoncées par le roi. Je dus m'entretenir avec ces messieurs que l'on appelle Croissy et Seignelay, et je dus constater que ceux-ci ne me laissaient guère parler. Dès que je hasardais une observation, ils me coupaient la parole. Peu à peu, ils confectionnaient un traité qui devait avoir 20 articles, et chaque fois que j'avançais une contre-proposition, ils la rejetaient avec une indignation qui ne me parut pas feinte, mais comme venant de l'orgueil que le roi des Francs a si bien su communiquer à ses serviteurs. Je n'étais guère satisfait. Mais je dus constater que les ordres du roi étaient suivis. On voulait décidément me faire plaisir. On mit à ma disposition un carrosse de louage, et M. de Raymondis fut chargé de me conduire partout. Le 5 janvier, j'assistais à Saint-Germain, ainsi que le roi et toute la cour, à l'opéra d'Attis, dont je sus qu'un sieur Lully avait composé la musique, et le sieur Quinault écrit les paroles. D'ailleurs, je devais faire la connaissance de ce Quinault et de ce Lully le lendemain, et j'eus le plaisir de les féliciter quand on m'invita à voir le ballet Le Triomphe de l'Amour. On me conduisit admirer les eaux de Saint-Cloud. Je visitai Notre-Dame, une grande et belle mosquée, et je grimpai jusqu'en haut des tours pour voir le panorama de Paris. Je me rendis à l'Observatoire, au Louvre, au Gobelin, où je rencontrai un peintre du nom de Lebrun, auquel je n'eus pas de mal à faire compliment tant je trouvais merveilleux son talent. J'allai aussi à la bibliothèque du roi, où je dois convenir que je fus surpris du grand nombre de livres arabes qu'on me montra. J'allai encore aux Tuileries assister à l'exercice des mousquetaires, et je fus convié à un bal donné par son Altesse royale, le duc d'Orléans, frère du roi, que l'on appelle ici Monsieur. À 1 heure après minuit, le dit monsieur m'a demandé si je ne commençais point à m'ennuyer et si je voulais m'en aller. Je lui ai répondu de cette sorte. Je serais bien puni, monseigneur, si vous me l'ordonniez. Je ne conçois rien de plus sensible que de quitter une si illustre et si belle compagnie.
Janvier 1682, le traité de paix fut signé par l'ambassadeur du Maroc et les deux plénipotentiaires français, non sans une altercation entre messieurs de Croissy et de Seignelay, ce dernier plus ancien en réception prétendant signer le premier et obtenant gain de cause. À la suite de la signature, l'ambassadeur fut invité au souper du roi.
Eh bien, monsieur l'ambassadeur, êtes-vous content?
Sire, je dois avouer à votre majesté que j'ai pleuré lorsque j'ai appris que je devais venir en France. Mais je sais maintenant que je pleurerai bien davantage quand je quitterai votre royaume.
Vous êtes le plus honnête homme du monde, monsieur l'ambassadeur. Et que dites-vous de Paris?
Je suis au désespoir.
Au désespoir?
Oui, car on ne me croira pas dans mon pays. Et il me sera impossible de le trouver mauvais, puisque moi-même, je n'aurais pas cru que tout ce qu'on m'a fait voir pouvait exister. Quand bien même 1000 personnes en auraient voulu soutenir la vérité.
Voilà qui est bien dit.
Si votre majesté me permet une confidence, je lui dirai que je note dans un carnet tout ce que je vois. J'ai donné un titre à ce carnet.
Peut-on connaître ce titre?
Je l'ai appelé « Le livre des miracles
». Ah, messieurs, vous conviendrez avec moi que cet ambassadeur a bien de l'esprit.
Au début de février, l'ambassadeur alla voir l'arsenal, visita les Invalides, passa toute une journée dans le château de Versailles où l'on achevait les derniers travaux. Il l'admira beaucoup et envia le roi quand il sut qu'il allait en faire sa résidence définitive dans quelques mois. Le 10 février 1682, Sa Majesté reçut en audience de congé l'ambassadeur du Maroc qui, après quelques révérences, prononça une nouvelle harangue.
Empereur de France, Louis XIV, le plus grand de tous les empereurs et rois chrétiens, qui n'ont jamais été et qui seront. Je m'en retourne après avoir obtenu une paix si souhaitée et si avantageuse à l'empereur mon maître, l'esprit rempli d'un nombre sans nombre de merveilles qui se confondent entre elles. Tout ce que j'en démêle fort distinctement, c'est que, comme tous les miracles du monde sont dans la France, ainsi, toutes les grandes qualités qui peuvent rendre un empereur accompli se trouvent dans votre majesté. Il ne m'appartient pas d'en parler. Je me contente d'admirer votre majesté et je me tais, en souhaitant que le ciel veuille donner un jour toute l'Afrique à l'empereur mon maître et à votre majesté toutes les autres parties du monde.
Voilà, monsieur l'ambassadeur, de belles et bonnes paroles. Je vous souhaite un bon voyage. Partez assuré de l'estime que je vous porte.
Le 23 février 1682, Monsieur de Bonneuil m'a porté les présents du roi Louis XIV. 2 lustres de cristal, 2 fusils, 1 paire de pistolets, 2 pendules, 1 montre enrichie de rubis et de diamants, 1 horloge, 2 montres à boîte d'or, 3 autres montres, plusieurs pièces de brocart, d'or et d'argent, et de drap écarlate. Un très beau tapis de 17 tonnes et demie. 1 lit et 12 sièges. D'autres cadeaux furent portés à ceux de ma suite. En outre, M. de Bonneuil m'a remis une lettre du roi des Francs destinée à mon maître, le sultan, ainsi que le texte du traité signé à Saint-Germain le 29 janvier 1682. Après quoi, je me mis en route pour Marseille, comme je l'avais demandé expressément. Car, dans cette ville, je voulais voir les galériens de notre pays, considérer leur infortune, leur prodiguer mes encouragements, et leur dire aussi l'espoir que le traité qui venait d'être signé leur permettait de concevoir une mise en liberté prochaine.